Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous allons évoquer cette semaine un des grands penseurs du XXe siècle, à savoir Raymond Aron, un penseur qui est né en 1905 et décédé en octobre 1983. C'était il y a un peu plus de 40 ans. Un auteur, un philosophe, un sociologue qui a beaucoup marqué les combats intellectuels de son temps, qui a une œuvre qui lui est propre, mais qui est aussi à inscrire dans un XXe siècle tourmenté et déchiré, et les nombreux combats intellectuels qu'il a pu mener, on se souvient bien évidemment, entre autres, des joutes avec son ancien condisciple Jean-Paul Sartre. Pour évoquer la figure de Raymond Aron, la pensée également de Raymond Aron, je reçois cette semaine Baptiste Gauthet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en philosophie politique et vous avez contribué à un ouvrage collectif qui s'intitule « Raymond Aron, l'actualité de sa pensée 40 ans après sa mort », qui a été réalisé par Génération Libre, qui est un think tank qui travaille sur notamment les sujets de la liberté au sens large. Un ouvrage où l'on a plusieurs contributions, des entretiens également, donc ça fait un beau panel. Ouvrage que l'on peut trouver en version numérique sur le site de Génération Libre, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, donc nos auditeurs peuvent le télécharger librement, accéder à des contributions extrêmement variées pour comprendre la multiplicité de la facette de Raymond Aron. Et puis nous allons essayer au cours de cette émission d'entrer dans la pensée aronienne. Il y a un élément qui est, parmi les nombreux éléments intéressants chez Raymond Aron, le fait que ce soit un auteur un petit peu touche-à-tout. On le définit généralement comme un sociologue, mais il a aussi beaucoup écrit sur les relations internationales. Il a écrit sur la philosophie politique, donc il n'est pas que sociologue.
Non, c'est un auteur un peu touche-à-tout. Il a fait de la philosophie de l'histoire, de la sociologie, évidemment aussi des relations internationales. C'est un auteur qui s'est intéressé aussi de près aux questions économiques, ce qui était assez rare à l'époque pour les intellectuels qui s'intéressaient plutôt à des questions philosophiques ou de ce qu'on appelle aujourd'hui des sciences sociales. Pourquoi est-ce que Aron s'est intéressé à un panel de sujets aussi large ? Mon idée, mais c'est celle aussi de Nicolas Bavrez qui a écrit une biographie bien connue, c'est que Aron, très jeune, était, je dirais presque, obsédé par la question de regarder le monde, par le fait de regarder le monde avec une forme de réalisme, regarder le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'on voudrait qu'il soit. Et donc Aron considérait qu'il ne pouvait pas comprendre le monde qui l'entourait sans s'intéresser à l'économie, sans s'intéresser aux relations internationales. Et c'est pour cette raison qu'il a une œuvre qui est assez originale, parce qu'évidemment il y a des grands ouvrages de sociologie comme des ouvrages de relations internationales, qui sont d'ailleurs reconnus comme étant des ouvrages de qualité par des gens qui sont spécialistes.
Une autre spécificité de Raymond Aron, c'est le fait qu'il ne soit pas marxiste. Il a d'ailleurs violemment combattu le marxisme. Il a écrit ce fameux ouvrage « L'opium des intellectuels ». C'est assez rare chez les sociologues français. Il y a eu Raymond Goudon, qui est un autre grand sociologue non marxiste. Mais enfin, ils sont très très peu.
Oui, c'est la spécificité de Raymond Aron dans ce XXe siècle, la domination intellectuelle du marxisme. Alors pourtant Raymond Aron, et ça on l'oublie souvent, Raymond Aron vient de la gauche. Il était d'ailleurs, il me semble, il n'était pas militant, mais il était avec le Parti Socialiste de l'époque dans les années 20. Il y a eu plusieurs étapes qui l'ont éloigné de ses thèses. Je dirais d'abord son voyage en Allemagne. Au début des années 30, où il a assisté à la montée du national-socialisme, sa découverte de l'économie, c'est-à-dire que par exemple il va être soutien du Front populaire au début, puis ensuite il va se rendre compte en étudiant un peu la question que les réformes économiques du soutien populaire du Front populaire ne marchent pas, et donc il va y avoir plusieurs étapes qui vont petit à petit l'éloigner du socialisme pour le faire adhérer à une forme de libéralisme politique. Alors ça ne sera jamais à Hayek sur les questions économiques, hein, ce n'est pas un fondamentaliste du marché, ça c'est une évidence. Mais enfin, moi je dirais un espèce de social-démocrate à tendance libérale. Et on a longtemps considéré que c'était un homme de droite parce qu'il a écrit au Figaro pendant des années. Mais c'est quelqu'un, moi je le considère comme quelqu'un qui vient de la gauche libérale. Mais effectivement, il y a eu ce grand débat avec son ami de Normale Sup, Jean-Paul Sartre. Et il a été tout au long de sa vie un petit peu mis de côté de la vie académique et intellectuelle en raison de ses prises de position où il critiquait l'URSS. C'est un des grands penseurs du totalitarisme, Aron. Il s'inscrit en ce sens vraiment dans la lignée de la pensée de Tocqueville. De Elia Lévy. On en parle assez peu, mais Elia Lévy a une grande influence sur la pensée d'Aron sur la question du totalitarisme. Et Aron a fait partie de ces intellectuels qui, très très tôt, ont compris que ce qui se passait à l'Est, c'était une autre forme de totalitarisme et qu'il fallait le combattre. Et ça, on lui en a beaucoup voulu. Évidemment, son Opium des intellectuels qu'il a publié en 1955 lui a valu d'être mis un peu au banc de la société des intellectuels de l'époque. On connaît cette phrase vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. C'est un peu ce qui s'est passé. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans sa biographie, Nicolas Bavrez explique que Aron n'était pas reçu à Normale Sup, ou en tout cas ne pouvait pas faire de conférence à Normale Sup jusqu'en 81, donc 2 ans avant sa mort, en partie parce que les élèves militants maoïstes l'empêchaient d'aller faire des conférences. Donc voilà, quand aujourd'hui on parle de cancel culture, ça a évidemment toujours, entre guillemets, existé. Et ces prises de position, oui, il en a souffert d'ailleurs pendant longtemps, hein. C'était difficile pour lui, alors que c'était pas non plus un ultralibéral ni un réactionnaire, enfin très très loin de là.
Et effectivement, faites bien de souligner le fait qu'il y avait un chape de plomb intellectuel sur l'université qui n'a jamais été véritablement libre en France et des combats intellectuels beaucoup plus virulents que ceux qu'on connaît aujourd'hui par les journaux, par l'université, par la... Il n'y avait pas encore vraiment les moyens de radio et de télévision, si on était encore au tout début, mais enfin une virulence intellectuelle forte.
Ah oui, Sartre disait que tout anticommuniste est un chien. Il y avait une violence. C'est quelque chose qu'on oublie souvent aujourd'hui parce que j'entends souvent, c'est un peu un lieu commun du débat public aujourd'hui de dire qu'on est dans une période où le débat politique serait d'une violence incroyable. Parce qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes de télé, d'information continue. Et donc, il peut y avoir parfois des débats qui sont un peu virulent, mais on oublie souvent, et ça c'est un point important dans la pensée de Raymond Aron sur la démocratie, c'est un point sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, et c'est le texte, on a travaillé sur ce sujet-là avec Raphaël Amselem dans ce recueil. Aron dit que la démocratie c'est l'institutionnalisation du conflit en vue de créer des compromis. Et ça c'est un point important parce qu'en fait, une démocratie qui est fonctionnelle, c'est une démocratie où on s'engueule, où on n'est pas d'accord, et en fait c'est plutôt un signe de bonne santé. Il faut juste que ce compromis ne crée pas trop de désunion, qu'on ne considère pas que nos adversaires politiques soient des gens avec qui on ne peut absolument pas s'entendre, et il faut accepter que dans le compromis, bah, parfois on perd. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord, qui vont être au pouvoir pendant quelque temps et qui vont mettre en place des lois, des mesures avec lesquelles on est en désaccord. Mais sur cette question de la violence politique, je pense que, et là c'est, disons, l'historien qui parle, je pense que on a tendance à sous-estimer enfin, même au XIXe siècle, il y avait une grande, très très grande violence politique. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Je dirais même qu'aujourd'hui, le monde politique est certainement moins violent que ce qu'il a pu être dans l'histoire contemporaine.
Cette question de la démocratie, justement, il y a ce rapport à la violence, il y a une sorte de régulation de la violence. Alors on comprend qu'une société n'est pas uniforme, donc il est normal qu'il y ait différents courants de pensée et que les personnes puissent débattre et opposer leurs idées. Mais comment Raymond Aron voyait cette régulation? Est-ce que ça passe forcément par le système parlementaire? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres manières de réguler cette violence et d'arriver à avoir un ordre politique? Tu vois, vous évoquez Hayek, il y a cette idée de la société qui s'ordonne par elle-même. Est-ce que l'ordre politique, la pacification de la société, elle se fait par un ordonnancement des personnes ou est-ce que c'est une autorité supérieure qui organise cet ordre?
Alors chez Aron, ça passe principalement par, disons, l'ordonnancement institutionnel. En ce sens, c'est un élève de Montesquieu, de Tocqueville. Mais je crois qu'on a beaucoup parlé du conflit entre Aron et Hayek. J'invite d'ailleurs vos auditeurs à aller lire l'article de Gwendal Chaton sur la question, qui est très, très, vraiment très intéressant, où il parle des débats entre Aron et Hayek sur deux conceptions de la liberté. En ce qui me concerne, je suis évidemment totalement d'accord avec ce qu'écrit Gwendal Chaton, mais j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être plus de points communs que ce qu'on voudrait le penser entre Aron et Hayek, parce que Aron, au final, a une vision, disons, un petit peu organique de l'État et des institutions, et il considère que le compromis doit se créer à travers le jeu institutionnel, mais donc ce n'est pas que le Parlement, ça passe aussi par la liberté d'expression, ça peut passer par la libre association. En fait, il y a tout un tas de moyens qui permettent aux individus, aux citoyens, de s'engager dans la vie de la cité et de participer à la formation de ce compromis.
Oui, c'est-à-dire que la vie politique n'est pas nécessairement l'élection. Il peut y avoir, vous l'avez dit, les associations. D'ailleurs, Tocqueville consacre plusieurs chapitres dans sa Démocratie en Amérique sur les associations. C'est-à-dire qu'un club de sport, c'est aussi une forme de vie politique au sens d'organisation de la cité.
Oui, alors chez Aron, la vie partisane est très importante. C'est-à-dire que Aron considère qu'il s'est essayé un peu à la politique et il en a conclu que la politique est un monde terrible dans lequel lui n'a rien à faire et dans lequel il ne se plaît pas, mais que c'est un moindre mal et qu'on en a besoin. Ce qu'Aron sous-entend par là, c'est que l'élection et la vie partisane et la vie militante est une nécessité, parce qu'il croit fondamentalement dans le multipartisme. Il est vrai que s'il croit en cela, il a une conception de la démocratie. Alors dans notre texte, on fait une séparation entre deux conceptions de la démocratie, une conception rousseauiste qu'on appelle de la souveraineté populaire et une conception, disons, constitutionnelle et libérale. Aron, en ce sens, s'inscrit donc encore une fois dans la pensée de Montesquieu, de Tocqueville. Moi, je rajoute Constant dans le texte. Alors, il me semble que je n'ai jamais lu le citer, en tout cas dans ses étapes de la pensée sociologique, qui ne parle pas, par exemple, de Benjamin Constant. Mais il y a tellement il y a une forme de continuité idéologique, intellectuelle entre ces deux auteurs sur un certain nombre de points qui me semble tellement évidente que je ne vois pas comment Aron a pu passer à côté de la pensée de Constant. Et en ce sens, cette liberté des modernes dont parle Constant dans son célèbre discours, Aron, à mon avis, y adhère complètement. Parce que sa conception de la démocratie, donc qui est une conception de la démocratie constitutionnelle et libérale, c'est celle de la séparation des pouvoirs pour protéger l'individu de l'arbitraire du pouvoir. Alors que la conception rousseauiste à laquelle il s'oppose et à laquelle Constant s'oppose aussi, est une conception beaucoup plus verticale du pouvoir, dans laquelle on parle d'intérêt général. L'intérêt général est, comment dire, incarné, mis en place par un outil qui est l'État, et donc il y a une forme de verticalité, et là on tombe dans ce que Tocqueville appelle le risque de la tyrannie de la majorité, et Aron s'y oppose fondamentalement. Et donc en ce sens, Aron ne considère pas que la démocratie ou la création du compromis, ce soit que le fait d'aller voter. C'est un ensemble de choses, c'est la séparation des pouvoirs qui est extrêmement importante chez lui, parce que le plus important, c'est de protéger l'individu de l'arbitraire du pouvoir.
Alors, petite page de publicité interne, on a évoqué Benjamin Constant et Frédéric Hayek. Vous pouvez retrouver dans les archives des podcasts une émission avec Damien Tellier sur Benjamin Constant et deux émissions avec Philippe Nemo, qui est le grand spécialiste français de Frédéric Hayek. On avait consacré il y a 2 ans maintenant une série d'été aux penseurs de la philosophie politique. Donc tout ça, ce sont dans les archives podcasts de Conflit, émission encore pleinement d'actualité. Un autre sujet par rapport à la démocratie, c'est la question de la démagogie. On peut avoir l'impression que, quand on lit Aron ou d'autres, finalement, ils ont une vision de la démocratie qui est un peu pure et parfaite. Or, le peuple, les gens qui votent, les personnes, on peut leur mentir, on peut les tromper, on peut leur faire de fausses promesses. Citer le Front populaire, on va promettre qu'on va baisser le temps de travail et puis en même temps, on va augmenter les salaires, ce qui est économiquement impossible. Mais le citoyen qui vote a une part de responsabilité. Il peut être trompé à son insu ou se laisser tromper parce que c'est peut-être plus agréable aussi.
Oui, alors il y a une dimension normative dans les écrits d'Aron sur la question de la démocratie, parce qu'on sent qu'il est quand même favorable au type de démocratie que je viens d'évoquer. En revanche, il faut bien comprendre chez Aron une chose, c'est qu'il est majoritairement descriptif. C'est-à-dire que lui, c'est un penseur de l'histoire et il essaie de comprendre l'histoire de la pensée, l'histoire de la démocratie sur un temps assez long. Il essaie de comprendre le développement historique de la démocratie depuis, depuis, disons, la Révolution, vraiment dans la lignée de ce que, de ce qu'a pu faire Alexis de Tocqueville. Sur la question de la démagogie, je ne dirais pas qu'Aron a une pensée un peu pure et parfaite de la démocratie. J'irais même que c'est l'inverse. Aron, d'ailleurs, dans certains de ses ouvrages, critique cette vision-là de la démocratie en disant que la démocratie est une réalité humaine et que donc, par définition, elle est imparfaite. Et en ce sens, on peut dire qu'il rejoint, Churchill lorsqu'il dit que c'est le pire système de tous, à l'exception de tous
De tous
les
les
autres.
autres.
Aron ne considère pas que la démocratie soit parfaite, et d'ailleurs, Aron considère qu'il y a dans la démocratie un certain nombre de contradictions qui font que la démocratie peut dériver vers quelque chose qui n'est pas souhaitable. Je parlais tout à l'heure de la tyrannie de la majorité. Aron considère que c'est un vrai souci. Il pense qu'il y a une contradiction entre l'institutionnalisation du compromis et le fait que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'union nationale. Il pense qu'il y a une contradiction entre le productivisme naissant de l'époque et les velléités de contrôle et les velléités prométhéennes qui vont naître à cette époque-là d'ingénierie sociale et la démocratie qui, en fait, par définition, est un régime lent, qui ne permet pas aux ingénieurs sociaux de pouvoir mettre en place des choses qui soient très efficaces, parce que ben, y a des contre-pouvoirs, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de contradictions qu'Aron met en avant. Et donc, je pense qu'il a une vision de la démocratie qui n'est pas aussi unique, qui n'est pas uniquement institutionnelle, mais qui est aussi sociologique. Et là encore, on retrouve l'influence chez lui qui est très forte d'Alexis de Tocqueville, qui dit au fond que, ou même de Montesquieu, qui disent tous deux que, au fond, la démocratie, c'est aussi un état d'esprit. Et que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, il faut que les citoyens qui la composent soient en ce sens, d'une certaine manière, responsables. Et peut-être on en parlera, mais on estime avec Raphaël Amselem qu'on vit aujourd'hui une crise de la démocratie française, et que cette crise de la démocratie française, en fait, en lisant Tocqueville, en lisant Aron, on est capable d'en comprendre les sources et de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette crise, en partie parce que je pense qu'il y a un délitement de l'esprit démocratique, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir.
Ce délitement, est-ce que c'est pas aussi une question de l'éducation? Parce que voter, c'est choisir. Enfin, une élection, c'est élire, donc c'est choisir. Pour choisir, il faut avoir les moyens intellectuels de choisir. Bien que il y a eu ces débats dans les années 1830, on reprochait à François Guizot d'être opposé à l'abaissement du sens, mais l'idée de François Guizot, c'était de dire, hein, il faut lever la société pour que la société puisse accéder à la capacité de voter, plutôt que de baisser la capacité de voter pour atteindre la société. Donc, c'est-à-dire que François Guizot avait mené de nombreuses lois en faveur de la liberté scolaire et avait contribué à ce que des écoles se créent partout en France. Donc, il y a un enjeu. Peut-être premier, peut-être parce que je suis professeur que je dis ça, mais en tout cas, l'idée de la formation et de l'instruction.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'éducation est un enjeu primordial, mais j'allais dire, c'est un peu une la palissade de dire ça dans le sens où, en fait, je crois qu'on est tous d'accord sur l'ensemble de l'échiquier politique. Je vois personne dire que l'éducation n'est pas importante. Je pense même que d'ailleurs, il y a aujourd'hui des enjeux. Alors ça, c'est un peu peut-être une marotte personnelle, mais je pense que moi, je fais un peu d'épistémologie et je suis toujours marqué par la mauvaise qualité des débats qu'on puisse avoir. Alors, par exemple, en économie, le niveau des Français en économie est tout à fait catastrophique, mais aussi d'un point de vue de la science, c'est que les Français ne savent pas comment on produit de la connaissance scientifique. Et souvent, je dis que ce qui s'est passé, par exemple, tous les débats qu'on a eus au moment du Covid auraient peut-être pu être évités si on avait eu, je ne sais pas, au lycée, des cours, juste un cours de comment est-ce que, qu'est-ce qu'une méta-étude, qu'est-ce qu'une méta-analyse, comment est-ce qu'on produit de la connaissance scientifique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'il est important que les citoyens, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les biais cognitifs qui peuvent jouer dans la manière dont on va recevoir l'information et dont on va analyser l'information, il faut que les citoyens aient la capacité, dans cette ère informationnelle où on reçoit constamment, constamment, constamment des informations, de pouvoir la traiter, de pouvoir faire la différence relativement rapidement entre un travail sérieux, scientifique et un travail qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un déficit sur ces questions. Après, je ne serais peut-être pas trop pessimiste non plus, parce que je pense que les gens. Enfin, je pense que notre système éducatif. Il y a évidemment beaucoup de problèmes et beaucoup de défauts, mais je ne crois pas que sur un temps long, je ne crois pas que les gens soient aujourd'hui fondamentalement moins éduqués que ce qu'ils l'étaient à une époque. Mais en tout cas, évidemment, la question de l'éducation est un enjeu primordial. Mais je crois que sur la démocratie aujourd'hui, on n'est pas tant face à un problème de déficit d'éducation qui ferait que les gens votent mal ou autre. Et de toute façon, moi, je pense que la question ne se pose pas parce que moi, j'ai lu Locke, j'ai lu Hobbes sur la question du contrat social. Je considère que on ne peut pas. Enfin, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait pas mettre en place un système, je sais pas, de permis de voter. Bon, pour moi, ce n'est pas, en tant que libéral, ça ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est que si on n'a pas le droit de voter, et que si donc on ne participe pas à l'élaboration de la loi, je ne vois pas en quoi l'individu, on devrait imposer à cet individu qui n'a pas participé à l'élaboration de la loi de respecter ces dites lois. Pour moi, il y a un problème. Donc même si quelqu'un est complètement sous-éduqué et vote très très mal, on n'a pas d'autre choix que de lui laisser le droit de vote et lui laisser le droit de participer à l'élaboration de la loi pour qu'il puisse ensuite être légitime de lui imposer cette même loi. Mais en revanche, je pense qu'il y a un déficit aujourd'hui de responsabilité individuelle. Et ça, c'est un point important et qu'on essaie qu'on évoque dans notre texte avec Raphaël. C'est que la démocratie, il y a deux aspirations qui sont contradictoires dans la démocratie. Il y a à la fois une aspiration pour la liberté individuelle, et donc pour une forme d'individualisme, et à la fois une aspiration égalitaire. Tocqueville déjà en parle, Aron également, et aujourd'hui on le voit, il y a une extension de l'aspiration égalitaire avec les questions de la gauche identitaire, du wokisme, etc., etc. On voit bien qu'il y a une extension des aspirations égalitaires et des demandes égalitaires, on veut de plus en plus d'égalité, mais en même temps, les gens n'ont jamais été aussi individualistes. Et en tant que libéral, ce mot pour moi est important parce que j'ai une conception de l'individualisme. Vous parliez de Guizot à l'instant. J'ai une conception de l'individualisme qui est une conception, disons, exigeante parce qu'elle s'accompagne de la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on a un délitement complet de la responsabilité individuelle. En partie, c'est en partie le produit, évidemment, de l'État-providence. Qui contribue à déresponsabiliser l'individu. Et quand on déresponsabilise l'individu, mais qu'en même temps on lui dit l'individu est roi, on ne touche pas l'individu, ce avec quoi je suis d'accord en tant que libéral, eh bien ça crée une forme de contradiction. Et on l'a vu au moment des retraites, par exemple, pour prendre un exemple très très concret. Au moment des retraites, les gens ne voulaient pas qu'on augmente l'âge auquel on va à la retraite, ils ne veulent pas qu'on touche au système par répartition, pour passer par exemple à une forme de système par capitalisation. Ils ne veulent pas qu'on augmente les cotisations, c'est-à-dire que les actifs ne veulent pas payer plus, et moi je les comprends, en tant que libéral encore une fois. Ils ne veulent pas qu'on réduise les cotisations, et donc comment on fait face au problème démographique face auquel on est, comment on fait? Et donc il y a une forme de déresponsabilisation, les individus, les citoyens vont aller manifester, vont dire je refuse tous ces changements, mais vont être incapables de proposer un changement applicable. Et donc là, on rentre dans un grand paradoxe de la démocratie libérale, disons, aujourd'hui, et qu'avait déjà remarqué Jean-François Revel lorsqu'il parle d'absolutisme inefficace, c'est qu'on a un système politique qui est extrêmement vertical, extrêmement présidentialiste. On a des institutions de la Ve République en France qui ont dérivé vers une pratique extrêmement verticale et présidentialiste du pouvoir. Donc on a un pouvoir qui est assez fondamentalement illibéral. On a une omnipotence de l'État, et en même temps, cet État est complètement inefficace, il est complètement incapable de mettre en place des grandes réformes. Et en fait, sur tous les sujets, les retraites, ça fait 15-20 ans qu'on aurait dû certainement changer, mettre en place des réformes un peu ambitieuses. Sur l'éducation, que ce soit l'éducation au niveau primaire, secondaire ou même l'éducation supérieure, il y a tellement de réformes à faire. Dès qu'on met en place une réforme, il y a toutes les facultés qui sont bloquées. Enfin voilà. Dans la santé, c'est pareil. Sur la question, je ne sais pas, de la police, de la sécurité, etc. Dans tous les domaines, on a l'impression qu'il y a une forme d'inertie politique, alors qu'en même temps, on a un pouvoir qui est relativement fort, relativement vertical et qui est assez illibéral. Et c'est un grand paradoxe de notre démocratie.
Vous parlez de crise de la démocratie. Est-ce que la démocratie n'a pas toujours été en crise? Je reprends la vie de Raymond Aron. Il y a les années 1930, ensuite années 1950, 60, aussi des débats extrêmement virulents. Enfin, la démocratie, les causes ne sont pas forcément les mêmes, les effets ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'y a jamais eu aucun moment où on a eu une démocratie qui a très bien fonctionné, du moins telle qu'on aimerait qu'elle fonctionne.
Oui, c'est juste. Alors après, il faudrait regarder en détail les différentes périodes. Moi, je pense par exemple que, contrairement à ce qu'on dit, la 4e République était plutôt une période où même une grande majorité de la 3e République était plutôt fonctionnelle. Et voilà. Et puis même en fait la 5e République, mais Je pense que, en fait, ce qui est intéressant chez Aron, c'est que, comme je le disais, il s'inscrit dans la continuité des travaux de Tocqueville. Après Aron, il y a eu François Furet qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et je crois que notre rapport à la démocratie en France, et à la démocratie libérale plus particulièrement, est un rapport un peu complexe parce que depuis 1789, on a eu ce long 19e siècle où, dans ses ouvrages, François Furet, lorsqu'il travaille sur la Révolution, il ne fait pas juste 1789. Hein. Il fait 1789 et il va peut-être, alors je ne sais plus exactement jusqu'où, mais il va peut-être jusqu'au début de la Troisième République. Et en fait, on a toute cette période du 19e siècle qui est absolument fascinante parce que le 19e siècle, c'est des espèces d'alternance entre des révolutions qui se font au nom de la liberté et de la démocratie, qui vont échouer. Et à la place de ces régimes de démocratie ou de grande liberté, on va avoir une forme, des différentes formes de despotisme. Et donc on va avoir des espèces d'aller-retour entre des retours de la monarchie, puis des régimes un peu plus libéraux. Et tout le 19e siècle, 1789 jusqu'à l'avènement de la Troisième République à la fin du 19e siècle, on a cette alternance entre. Et donc Tocqueville l'analyse assez bien. Furet s'inscrit en ce sens dans la continuité de la pensée de Tocqueville. Et je crois que. En France, on a toujours eu du mal à accepter que la démocratie, comme le dit Aron, c'est cette fabrique du compromis. Et je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, ce que je parlais de Revel et de l'absolutisme inefficace, en fait, s'inscrit dans l'héritage des débats que l'on a depuis 1789, où nous, on a une histoire particulière de l'avènement de la démocratie qui est par exemple très différente des États-Unis ou de l'Angleterre. Et donc je crois qu'on peut dire, comme vous le dites, qu'il y a toujours eu, d'une certaine manière, une crise de la démocratie en France, parce qu'en fait, on n'a jamais été complètement réconcilié avec le fait que la démocratie, avant d'être la souveraineté populaire, la conception. Je pense qu'en fait, dans les esprits, la conception rousseauiste domine. D'ailleurs, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens c'est quoi la démocratie, ils vont vous dire bah, le vote. La souveraineté populaire, les gens qui décident, le peuple qui vote pour le peuple, un truc. Jamais ils vont vous parler Montesquieu, la séparation des pouvoirs, la défense de l'individu contre l'arbitraire, la limitation du pouvoir, etc., etc. Et je crois que les gens ont toujours le sentiment qu'on n'est pas dans une vraie démocratie parce qu'ils ont cette vision un peu démagogique et un peu, disons, comment dire, éthérée de la démocratie. Qui vient de cette conception rousseauiste, mais c'est pas le seul auteur, hein, mais juste rousseauiste parce que dans l'imaginaire collectif, tout
Il a
le monde sait,
cristallisé un petit
voilà, il
peu
a
les choses.
cristallisé exactement, mais je veux pas non plus caricaturer, enfin dire que c'est que Rousseau, voilà. Et d'ailleurs, Rousseau dit des choses très intéressantes par ailleurs, hein, c'est pas le sujet. Alors qu'en fait, on vit dans une démocratie qui est plutôt une démocratie de type libéral constitutionnel, alors comme je le disais, imparfaite en raison de la pratique du pouvoir, de l'hyper-présidentialisme, etc., etc. Mais on est quand même dans un système libéral constitutionnel, et donc les gens ne comprennent pas, il y a une forme de. Je crois que les gens sont insatisfaits du régime démocratique parce que tout le monde se sent lésé. Et moi, je dis souvent, une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie dans laquelle tout le monde se sent un peu lésé, parce que ça veut dire qu'il y a du compromis. Si quelqu'un est complètement satisfait de tout ce qui est mis en place, ça veut dire qu'il y a une tyrannie, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les gens sont tous insatisfaits. Par exemple, on va voir un écolo, l'écolo va nous dire, oui, c'est scandaleux, on n'a jamais eu de gens vraiment écolo qui s'intéressaient vraiment à l'environnement au pouvoir, et il faudrait mettre en place des vraies mesures, machin truc. Donc s'il est au pouvoir, ça ne le dérange absolument pas d'avoir tous les pouvoirs et puis de mettre un peu de côté les contre-pouvoirs. Si on va voir quelqu'un, je ne sais pas, de droite ou d'extrême droite, il va vous dire la même chose, mais sur la question, par exemple, de la sécurité, de l'immigration, dire oui, ça fait 50 ans qu'on dit la même chose, il faut enfin qu'on agisse, machin truc. Mais si on met leurs adversaires politiques au pouvoir, là, ça va être les premiers à dire, ah bah non, ça, attention, démocratie, parlement, contre-pouvoir, il faut limiter les pouvoirs. Et donc je crois que comme on ne pourra jamais se mettre d'accord, eh ben on ne peut pas faire mieux que d'avoir le système dans lequel on est, qui est imparfait, mais qui est un système dans lequel chacun peut participer à l'élaboration de ce compromis, mais c'est profondément c'est quelque chose qui est profondément insatisfaisant pour l'esprit humain qui aime bien quand les choses sont parfaites, vont dans son sens.
Vous évoquiez tout à l'heure la construction de la pensée scientifique. Quelle est la méthode de Raymond Aron en sociologie, s'il y en a une d'ailleurs, mais comment est-ce qu'il élabore ses réflexions, comment est-ce qu'il écrit ses livres? On sait qu'un historien va travailler sur des sources, par exemple, c'est le fondement du travail de l'historien, mais Raymond Aron, quelle est la méthode qu'il a pu développer?
C'est une bonne question. Aron n'est pas historien, n'est pas sociologue au sens, vous avez évoqué tout à l'heure Raymond Boudon. Raymond Boudon est un vrai sociologue, parce qu'il fait vraiment un travail de sociologie. Les travaux, alors moi j'ai pas lu l'intégralité des travaux du Aron sociologue, mais la majorité des travaux qui aujourd'hui sont, disons, connus de Aron en sociologie, c'est plutôt de l'histoire de la pensée sociologique. Il va travailler sur Max Weber, sur Durkheim, sur Tocqueville, sur Montesquieu, et il essaie, dans ses étapes de la pensée sociologique, qui est vraiment son maître ouvrage sur la question, il essaye de faire l'histoire de cette discipline qu'est la sociologie, en regardant comment di différents auteurs, à une époque où la sociologie n'était pas encore constituée en tant que discipline scientifique, comment ces auteurs, dans leur manière de travailler, avaient déjà à minima une démarche de sociologue. Et Aron s'inscrit plutôt en passeur, il essaye de travailler sur ces auteurs, et donc il fait plus de l'histoire de la pensée, une histoire des idées, une histoire de la pensée scientifique, on va dire, plus qu'un vrai travail de sociologue au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas de souvenir d'Aron qui fait des travaux, je ne sais pas, où il fait des sondages, où il fait du quantitatif, où c'est pas comme ça qu'il travaille.
Il y a la question également de la construction européenne, puisqu'on va rentrer bientôt en période de campagne électorale européenne, mais est-ce que c'est aussi un sujet sur lequel Aron a réfléchi, notamment la question de une souveraineté au-dessus des États? Alors ça peut être l'Union européenne, ça peut être aussi l'ONU, des choses qui sont construites au moment où là il a beaucoup travaillé, mais on évoquait la démocratie tout à l'heure, donc démocratie au niveau de l'État. Comment est-ce qu'on peut penser une démocratie supra-étatique ou supranationale, que ce soit avec l'Union européenne ou avec des organismes internationaux?
Sur ce point, je vais peut-être vous décevoir parce que j'ai assez peu travaillé ces aspects de la pensée d'Aron. Il me semble que sur la question européenne, Aron était plutôt pro-européen. Je ne prends pas trop de risques en disant ça. Quelle était sa position exacte sur est-ce qu'il faut une Europe fédérale ou non? Je dirais quand même que Aron était un réaliste. Et Aron s'inscrivait, et d'ailleurs les travaux de Dominique Schnapper, qui est sa fille, qui est une grande sociologue, elle travaille sur la question de la démocratie, de l'État-nation. Il me semble qu'Aron considérait quand même que l'État-nation était quelque chose dont on ne pouvait pas se séparer, et je ne pense pas qu'Aron aurait pensé possible, en tout cas à l'époque où il écrivait, qu'on puisse mettre en place des États-Unis d'Europe. Comme certains voulaient le faire. Je pense qu'Aron était plutôt réaliste et, à mon avis, était plutôt pro-européen, mais je pense pas qu'il militait en faveur d'une construction européenne fédéraliste ou d'une démocratie européenne. Ensuite, qu'est-ce qu'il penserait de l'évolution de l'Europe depuis sa mort en 1983? Ça, c'est toujours difficile de faire parler les morts. Certainement, il évoquerait certainement que les institutions européennes aujourd'hui sont imparfaites et qu'il y aurait des choses à changer. Après, je pense pas qu'il serait pas anti-européen, ça, j'en suis à peu près convaincu.
Un autre aspect de la vie de Raymond Aron, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il a longtemps été chroniqueur au Figaro, donc avec l'idée aussi de quitter le cénacle universitaire pour s'exprimer à un plus grand nombre et puis un lectorat, peut-être pas très au fait évidemment des débats strictement universitaires, d'arriver aussi à expliquer simplement des choses un peu plus compliquées. D'ailleurs, il y avait eu, je sais plus de qui est cette formule, mais enfin, on disait que Raymond Aron était professeur au Figaro et que c'était un peu sa tribune professorale. Est-ce que ça contribue aussi, enfin, dans sa recherche de la démocratie, à, on va dire, à populariser ou à vulgariser ses grandes idées?
Oui, on parle souvent du spectateur engagé pour Raymond Aron. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que Aron avait une double casquette. Il avait à la fois une casquette académique, universitaire, avec des travaux très sérieux, et à la fois une casquette de journalisme, d'homme engagé dans la cité. Et on a souvent tendance à opposer les deux parce qu'on considère que lorsqu'on a la casquette universitaire, on doit être le plus objectif possible, le plus neutre possible. Et puis lorsqu'on est engagé dans la cité, par définition, on est militant et donc on n'est pas objectif et c'est la subjectivité qui parle. Aron considérait que les deux pouvaient être liés. Et il dit souvent, lorsqu'il écrivait ses articles au Figaro, qu'il essayait toujours d'être honnête, c'est-à-dire d'avoir une démarche académique et de dire je prends une situation, j'essaie de la décrire de la manière la plus fidèle possible, j'essaie d'être fidèle au réel, donc je vais présenter les différents points de vue, je vais présenter quelles sont les différentes possibilités, et puis ensuite, à la fin de mon article, il se disait, je vais me forcer à quand même prendre une position. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que ma prise de position est la vérité absolue, c'est juste qu'il faut que mon lecteur puisse à la fin de mon article quand même comprendre à peu près où je me situe et qu'il ait une conclusion à peu près claire. Et je pense que c'est une stratégie. Moi, je travaille là aujourd'hui dans le Polydé de l'Express, donc je fais du journalisme aussi et c'est quelque chose qui, moi, m'influence beaucoup parce que quand j'écris mes articles, j'essaie à la fois d'avoir cette démarche d'honnêteté intellectuelle, de restituer les choses telles qu'elles sont, d'écouter les différents points de vue, de les restituer avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible, puis ensuite, à la fin, de pouvoir avoir une conclusion. Et Aron considérait que c'était important que dans la sphère journalistique et dans les débats qui touchent le grand public, on puisse, en tant qu'intellectuel, qu'on puisse parler, et moi, c'est un de mes combats aussi aujourd'hui, c'est de donner un peu plus la parole aux universitaires qui sont un peu dans un monde fermé, ils font des colloques, ils parlent un peu entre eux, alors qu'en fait, c'est eux qui, sur un certain nombre de sujets, sont les plus compétents pour... Et donc, je pense qu'il faut réussir à les sortir de leurs universités, de leurs amphithéâtres, pour les amener dans la vie de la cité. Et Aron, oui, effectivement, lorsqu'il écrivait au Figaro, alors je ne sais plus exactement combien d'articles il écrivait par semaine, mais il avait une production absolument hallucinante, il travaillait comme un dingue. Et lorsqu'on lit aujourd'hui, c'est assez marquant de voir à quel point souvent il avait raison. Avant tout le monde, moi je trouve que son analyse par exemple de mai 68 est tout à fait à l'époque, c'est un des seuls à avoir une analyse aussi juste, aussi claire, aussi nette de ce qui se passe en mai 68, alors que par ailleurs lui-même dit qu'en mai 68 il se laisse aller à un certain nombre de passions. Et donc lorsqu'il parle de spectateur engagé, c'est qu'il essaie à la fois d'avoir cette casquette de spectateur, j'observe le monde tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Et cette observation du monde tel qu'il est me permet ensuite, lorsqu'on passe du côté normatif, lorsque je rentre dans la cité, lorsque je deviens engagé, d'avoir un avis qui est un peu plus informé, un peu plus éclairé, et donc peut-être d'un peu meilleure qualité que si j'étais juste quelqu'un d'engagé.
La neutralité n'est pas aussi une forme d'illusion, ne serait-ce que par les sujets qu'on choisit de traiter. Enfin, si on est sociologue, c'est parce qu'on aime la sociologie, donc il y a forcément une part de subjectivité. Si on est géographe, qu'on préfère la géographie, donc il n'y a pas de neutralité, on va dire qu'on va peut-être la tempérer ou la modérer, mais forcément, on traite de sujets qui nous plaisent et pour lesquels on a une subjectivité marquée.
Oui, je crois qu'Aron est un élève de Max Weber sur cette question, et moi aussi d'ailleurs, je pense que la neutralité axiologique dont parle Weber, en tout cas, je pense dans toutes les sciences en réalité, mais même en sciences sociales, et d'ailleurs c'est un point sur lequel je pourrais être d'accord avec tous les post-structuralistes qui disent tout savoir est situé ou autre, évidemment, moi-même, lorsque je travaille sur un... Lorsque je me pose une question d'ordre académique, j'ai un objet que j'étudie, mais la manière dont je vais l'étudier, il y a un angle particulier. Donc en sens social, la neutralité axiologique, elle n'est jamais accomplie. En revanche, il ne faut pas être relativiste. La neutralité axiologique, c'est un idéal, et il faut tout faire pour se rapprocher de cet idéal. Et je pense quand même qu'il y a une différence entre ceux qui font en sorte de se rapprocher de cet idéal. Je crois qu'Aron était... profondément mu par cette volonté, par cette volonté de d'être le plus neutre possible, enfin pas neutre au sens mou, mais d'être le plus objectif possible dans ses travaux, tout en ayant conscience qu'il ne l'était jamais réellement parce qu'il était un produit de son histoire, qu'il c'est un homme avec des biais, et puis bon, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas a autant d'influence que ce qu'on sait dans la manière dont on traite un sujet, donc par définition on n'est jamais complètement objectif, mais ce qui est beau avec la science, c'est qu'il y a une pluralité de point de vue, et que l'intérêt de la production scientifique, c'est pas qu'il y a un mec qui est scientifique et qui a un doctorat et on dit lui c'est un sachant et donc tout ce qu'il dit c'est la vérité, c'est que ce qu'il dit a été vérifié par ses pairs qui eux ont peut-être un autre parcours intellectuel, ont des idées différentes, ont une manière différente d'aborder le même objet d'étude, et donc c'est la confrontation de ces différentes manières d'aborder un même objet d'étude qui crée une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus scientifique. Mais Aron n'était absolument, en tout cas pour revenir à Aron, il n'était pas naïf, il ne pensait pas qu'il pouvait être objectif, et d'ailleurs lui-même ne dirait jamais qu'il était objectif. Il dirait même qu'il ne l'était pas du tout d'ailleurs, alors qu'en fait il était plus que ce qu'il lui-même disait en réalité.
Merci beaucoup, Baptiste Gauthier, d'être venu au micro de conflit pour évoquer Raymond Aron, donc l'ouvrage que vous avez co-réalisé avec Raphaël Amsalen, Raymond Aron, l'actualité de sa pensée 40 ans après sa mort, qui regroupe de nombreuses contributions, ouvrage qui peut être retrouvé sur le site de Génération Libre pour ceux qui voudraient approfondir la pensée de Raymond Aron. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.